Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver.
Heureux d'être de retour en France.
Ça s'est bien passé ?
Absolument.
Vous nous avez manqué. Arthur de Vatrigan, ravi de vous retrouver également.
Bonsoir, Elliot.
Le point sur l'information, c'est avec Adrien Fontenot et on commence l'émission dans un instant. Cher Adrien, bonsoir.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Une semaine après la mort du jeune Mathis, 15 ans, tué par un adolescent du même âge, une marche blanche était organisée dans le centre de Châteauroux cet après-midi. Quelques 8000 personnes y ont participé. Un hommage organisé à l'appel de sa famille qui refuse toute récupération politique. Pour rappel, son agresseur présumé a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. La mère de cet adolescent, soupçonnée d'avoir giflé Mathis alors qu'il était déjà blessé, a également été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. En campagne à Ajaccio, dans le cadre des élections européennes, Éric Zemmour a été la cible d'insultes et de jets d'œufs alors qu'il déambulait sur un marché. Une quinzaine d'individus qui ont traité le président de Reconquête de facho. Le procureur d'Ajaccio annonce l'ouverture d'une enquête pour violence en réunion avec armes. Et puis les discussions autour d'une trêve à Gaza se poursuivent. Une délégation du Hamas est arrivée aujourd'hui en Égypte pour négocier un accord. Israël, de son côté, enverra une délégation au Caire seulement en cas d'avancée positive sur un possible échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Outre cet échange, l'offre comprendrait également 40 jours de pause. Après bientôt 7 mois de guerre, les forces de Tsahal menacent toujours de lancer une opération terrestre à Rafah.
Merci cher Adrien pour le point sur l'information. À l'approche des Jeux Olympiques, tous les chemins mènent à Paris, mais pas tous les courants de pensée. Gare à celui qui remettrait en doute le progressisme. Alors faut-il épouser les thèses les plus woke pour être vu d'un bon œil dans les rues de la capitale? Comment expliquer ce décalage idéologique entre la mairie de Paris et l'ensemble du pays? On en parle dans un instant. À la une également, 5 à 8 000 personnes rassemblées ce samedi pour rendre un dernier hommage à Mathis, 15 ans, tué le 27 avril dernier, de coups de couteau portés par un autre adolescent de 15 ans, d'origine afghane, connu des services de police et de justice. Mathieu, vous souhaitez revenir sur la signification sociologique de ce drame et le traitement médiatique qui en a été fait. Enfin, vous recevez ce samedi Frédéric Lemoyle, historien, auteur entre autres de l'histoire du fascisme et les hommes de Mussolini. Quelle différence y a-t-il entre le fascisme d'hier et celui d'aujourd'hui? Vaste programme pour Face à Mathieu Bock-Côté. Face à Mathieu Bock-Côté, c'est parti. Cher Mathieu Bock-Côté, la mairie de Paris s'est imposé au cœur de la plus récente actualité par des choix idéologiques très marqués. Et c'est sur ces choix que vous souhaitez revenir ce soir dans votre premier édito.
La mairie de Paris et la ville de Paris plus largement, et ce qui se passe à Paris au sens large. Mais parce que, bon, tout vous l'avez dit, tous les projecteurs sont braqués sur Paris, capitale de la France d'un point de vue historique, mais capitale du monde qui vient, capitale de la post-France ou de la France post-française, je ne sais pas comment dire la chose, dans les temps qui viennent. Et les JO représentent un moment tournant. En fait, tout ce qui est lié de près ou de loin aux JO nous prépare à cette espèce de basculement de notre représentation de la capitale. Alors, premier élément, qui portera parmi d'autres la flamme olympique à Paris? On nous a annoncé que ce sera une drag queen, Minima Gesté, qui va porter la flamme olympique. Et on nous présente cela comme un grand moment d'émancipation pour ceux qu'on appelle au sens large les LGBTQ2TI+, quelque chose comme... Vous pouvez le faire dans différents ordres. Donc, un grand moment, pourquoi? C'est un moment d'émancipation. On dit les Jeux olympiques doivent permettre de mettre de l'avant les figures nouvelles de l'émancipation sexuelle, mais pas seulement sexuelle, de l'émancipation, de la diversité. Et la drag queen est vue comme... Donc, qu'est-ce qu'une drag queen, on le rappelle? C'est un homme qui se déguise en femme et de manière caricaturale, en accentuant de manière caricaturale les traits sexués féminins. Et on nous dit, mais c'est un symbole d'ouverture et de diversité. Ce sera le symbole nouveau de la liberté parisienne, de l'émancipation parisienne. On pourrait croire que les Jeux olympiques auraient dû permettre plutôt de mettre de l'avant ce qu'on appelait l'élégance à la française, la beauté à la française, une certaine féminité ou masculinité qu'on veut à la française. On bascule plutôt ici vers un autre modèle anthropologique, un autre modèle culturel. Donc la drag queen devient le symbole du monde qui vient. Puis on comprend pourquoi, hein? La drag queen, c'est la rupture radicale avec le corps biologique, le corps sexué. C'est l'être humain qui est pur fantasme, qui est le fantasme de son identité sous le signe d'une sexualité revendiquée, extravagante. La drag queen, on ne parle pas des choix, des préférences ou de l'identité sexuelle des gens. On est dans cette idée d'une déconstruction radicale sous le signe de la caricature du masculin et du féminin. Ce n'est pas surprenant que ce soit à Paris, si je peux me permettre, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais on en a parlé aussi la semaine d'avant. Le livre du moment, hein, Transmania, qui est un livre au cœur de l'actualité, et c'est le livre que plusieurs aujourd'hui cherchent politiquement à censurer. Il faut comprendre, on est en France aujourd'hui, en 2024, des autorités politiques parisiennes cherchent à censurer un livre parce qu'il remet en question la théorie du genre, l'idéologie transgenre. Et qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Yann Brossat, qui est une figure importante de la gauche parisienne, c'est le moins qu'on puisse dire, sénateur, qui nous dit qu'il faut interdire, empêcher la conférence qui était programmée, je crois que c'était à Assas, empêcher cette conférence, elle ne doit pas être tenue, on ne doit pas la tenir parce que, là c'est le discours habituel, la transphobie, ce qu'ils appellent la transphobie, c'est toute forme de désaccord avec la théorie du genre, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et dès lors, il faut interdire cela. Donc, on cherche politiquement à interdire une conférence et limiter la circulation d'un livre aujourd'hui. Dans le contexte où on nous dit, ça revient toujours en boucle, dans le Paris des Olympiques, dans le Paris qui justement s'ouvre aujourd'hui dans sa grande révolution identitaire, idéologique pour embrasser sa vocation de ville-monde pendant les Olympiques, comment pourrait-on tolérer de tels discours? Je note qu'il est soutenu par la tête de liste des communistes aux européennes, Léon Desfontaines. On avait l'impression que les communistes étaient et c'était un peu transformé ces dernières années. Bon, moi, j'y avais jamais cru. Hein. si on est communiste, c'est qu'on demeure fidèle à une idéologie dont on connaît l'œuvre à travers l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, de Léon Desfontaines, on lui a posé la question sur une autre chaîne et l'interdiction de cette conférence, vous trouvez que c'est bien? Il dit oui, bien sûr, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Au même moment, un peu partout en France, vous le noterez, la gauche radicale, LFI, nous dit qu'elle est à la pointe, en fait, du combat pour la liberté d'expression autour de la question de Gaza, autour de Rima Hassan, autour de la conférence de Jean-Luc Mélenchon. Donc la gauche qui veut tout censurer au même moment à Paris, enfin, veut tout censurer à Paris, mais au même moment ailleurs, réclame la liberté d'expression, mais seulement pour les siens. Dans le même contexte, parce que la trame de fond de tout cela, c'est Paris, on nous a annoncé, bon ça c'est pas la mairie nécessairement, mais dans le cadre des Olympiques, qu'est-ce qu'on va offrir, notamment Place de la Concorde, pour que les gens puissent se sustenter, pour qu'ils puissent bien manger? C'est agréable, c'est une fête, les Olympiques, ça devrait être un banquet d'Astérix, un banquet d'Obélix plutôt, un banquet à la française. Eh bien, pas du tout. Le Figaro nous apprenait, parmi les choses qui seront menues, saucisses végétales, falafel de betterave, le site de la Concorde ne servira que des recettes végétarienne. Je sais, pour moi aussi, ça, pour moi, c'est pas une opinion, c'est un délit. Mais quoi qu'il en soit, à ce niveau de folie, donc qu'est-ce qu'on voit? On a sacrifié la beauté à la française et l'élégance à la française, donc avec la consécration de la drag queen. Et bien là, on sacrifie la gastronomie à la française, les traditions à la française. On pourrait croire que les Olympiques, c'est l'occasion de mettre de l'avant la culture française dans ce cas-là de plus profond, de plus caractéristique. Eh bien non. En fait, la représentation, on pourrait dire traditionnelle de la culture française, on réserve ça pour la Coupe de rugby. On peut s'en rappeler, hein? Ouais. La Coupe de rugby, là, c'était scandaleux. Comment pouvait-on présenter une France aussi rance, une France aussi française, une France aussi moisie? La seule France intéressante, c'est la France des saucisses végétales et de falafel de betterave. Non, mais c'est terrifiant de dire des choses comme ça. Ça peut sembler drôle, mais c'est terrifiant parce que là, sacrifice de la beauté et de l'élégance, sacrifice de la gastronomie, volonté. Donc, la question de l'alimentation est devenue une question politique aujourd'hui. Hein. Le véganisme, un certain végétarisme, je ne parle pas du végétarisme comme choix personnel, mais la volonté de l'imposer à tous, la volonté de rompre avec l'alimentation carnée, la volonté de rompre avec l'alimentation, donc le bœuf, faites la liste de tout ce qu'on peut manger avec enthousiasme, on doit faire partir ça. C'est l'homme nouveau doit aussi manger nouvellement dans son assiette. Et là, on peut aller plus loin. Le fait que Paris va être transformé en zone sous code QR, il va falloir se promener en certains lieux avec des autorisations, à tout le moins c'est le projet de certains, pendant les Olympiques, et ne pas oublier que dans l'affiche des Jeux Olympiques, on a effacé la croix, Ne l'oublions pas. Hop, de trop la croix. Mais finalement, ce sont les Olympiques deviennent un moment d'accélération de la défrancisation symbolique et culturelle de la France. De ce point de vue, je comprends que bien des gens fuient les Olympiques parce qu'ils fuient Paris pour retrouver la France, à tout le moins cet été.
Bon, on va essayer de trouver un hot dog à côté de la place de la Concorde.
Mais à la saucisse aux betteraves.
On a l'impression que ces innovations idéologiques sont moins portées au niveau national que municipal. Est-ce que notre pression est fondée, Mathieu Bock-Côté?
Je pense qu'il faut voir comment chaque idéologie aujourd'hui se déploie à un niveau qui lui est pas spécifique, mais favorable. L'extrême-centre embrasse le poste national. L'extrême-centre aime l'Europe. L'extrême-centre aime la gouvernance mondialisée. L'extrême-centre aime les lieux de pouvoir désincarnés. Disons ça comme ça. Donc, ce qui fait que l'Union européenne, c'est le lieu de pouvoir privilégié de l'extrême-centre pour piloter la prochaine étape dans l'histoire humaine. La droite nationale globalement, préfère le niveau national, justement, parce que la nation est vue comme le lieu de référence, la communauté politique de référence, où peut se poursuivre l'expérience démocratique de la liberté, et puis le fait est qu'il existe des peuples, et le niveau national permet aux peuples de se gouverner eux-mêmes. Et au niveau municipal, on le voit de plus en plus, il y a véritablement la gauche radicale. La gauche radicale dit « OK, on ne peut pas gagner au niveau national la plupart du temps, ce n'est pas possible. » Mais on peut, à cause d'une démographie particulière, à cause de la sociologie électorale particulière des grandes villes ou des villes moyennes, on peut s'emparer de ces villes-là et les transformer en laboratoire idéologique pour créer le monde nouveau qui nous échappe au niveau national. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On le voit, mais pas seulement à Paris, hein. Parce que bon, l'administration Hidalgo en cette matière, c'est la pointe avancée du progrès. Mais pensez aussi à Londres, qui au moment du Brexit disait « Est-ce qu'on doit vraiment être solidaire de la décision du Brexit? Nous qui sommes des Britanniques sophistiqués, évolués, devons-nous véritablement nous sentir liés par les cutéreux, les édentés, les types avec un visage si effrayant, qui sont malodorants même à l'écran? Est-ce qu'on doit vraiment se laisser commander nos choix politiques par la Grande-Bretagne profonde? Non. » Londres, c'est autre chose. Paris, c'est autre chose. On pourrait dire aujourd'hui Lyon, Bordeaux, ces villes qui sont souvent contrôlées par les écolos d'ailleurs et qui cherchent véritablement à transformer en lieu d'une l'utopie progressiste nouvelle, l'utopie woke, la révolution diversitaire des temps présents, le nouveau totalitarisme municipal dans certains cas. Eh bien, les villes deviennent le lieu où tout cela devient possible. Je note, soit dit en passant, que des villes comme la mairie de Paris, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, financent des trucs comme SOS Méditerranée.
Bien sûr.
Donc, ça vient dans un même état d'esprit. Et je note que la politique redevient, au niveau municipal, elle redevient très concrète. Hein. Parce qu'au niveau national, ce sont des politiques publiques impuissantes. Au niveau post-national, on pilote l'histoire sur des décennies. Au niveau municipal, c'est très concret. On contrôle la vie des gens. Et qu'est-ce que la gauche radicale préfère si ce n'est contrôler la vie des gens au point même de révolutionner l'alimentation pendant les Jeux en bannissant la gastronomie française de la France pendant un temps?
Vous souhaitez revenir également sur la controverse entourant Nassira El-Mouadem, car elle vous semble liée à votre développement précédent.
Ah, mais c'est exceptionnel. J'ai regardé ça cette semaine de Montréal et j'étais révolté. Voilà une femme qui insulte les Français. Peuple, pays de racistes dégénérés ou de dégénérés racistes. Bon, c'est quand même violent comme expression. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Là, des gens réagissent. Pas toujours de belle manière, on en convient. C'est assez rare, par ailleurs, des gens qui réagissent bien au fait de se faire insulter. Donc, pays de racistes dégénérés, des gens répondent. Et quelle est la controverse médiatique du moment? Eh bien, on oublie complètement la déclaration première de Madame El-Mouadem et on décide de se concentrer seulement sur la réaction de ceux qui étaient insultés. Donc, on fait disparaître l'insulte première, qui est une insulte que certains pourraient dire avec une connotation raciale. Pays de racistes dégénérés. C'est quoi si c'est pas de l'essentialisation, ça? Ensuite, on s'en extrait de ce pays, on le regarde de l'extérieur. Hein. Qui êtes-vous, vous les ploucs, hein, les bouseux dégoûtants? Et donc, c'est une attaque assez violente. Réaction des réseaux sociaux. Et là, le récit médiatique se fixe exclusivement sur les réseaux sociaux en disant, mais regardez à quel point cette pauvre dame est victime de harcèlement. Et là, tous les grands médias s'y mettent pour la présenter, pour la victimiser. Au point même où Madame Adèle Van Riet, qui est une femme estimable par ailleurs, dit sur Twitter, je l'ai dit de vive voix ce matin à Nassira El-Mouadem, et je le redis ici, les attaques racistes qu'elle subit sont inacceptables. Elle a tout mon soutien. J'aimerais demander à Mme Van Riet si tout son soutien se porte aussi sur la déclaration de Mme El-Mouadem sur le fait que la France soit un pays de racistes dégénérés. Est-ce que Mme Van Riet soutient aussi cette idée que les Français sont des racistes dégénérés? J'aimerais vraiment le savoir, parce que de quel soutien parle-t-on? Pour le reste, sinon, on a l'impression que la France nouvelle insulte la France dite d'hier, que On pourrait dire, et oui, il y a une commune nationalité juridique, mais ce n'est pas le même peuple, en fait, qui parle à travers cette commune nationalité juridique. À tout le monde, on peut en avoir l'impression. De la même manière, tout le monde se positionne. C'est une querelle de positionnement moral et médiatique. Donc là, si vous considérez que l'insulte de base était inacceptable, ben vous êtes probablement d'extrême droite et de droite et raciste et tout ça. Si vous vous solidarisez de la victime du moment, ben là, vous êtes du bon côté de l'histoire. Je note, et je terminerai mon édito là-dessus, que c'est la même chose avec ce qu'on a vu en Corse aujourd'hui. Éric Zemmour, qu'on en pense qu'on veut, la question n'est pas là, se fait agresser. Il se fait agresser. Les milices antifa sont là. L'extrême gauche est là. Une femme l'attaque. Zemmour se défend. Comment nous raconte-t-on l'histoire médiatiquement? J'ai lu sur un site important de service public, on dit Zemmour, je crois, agresse ou frappe une femme. Mais c'est quoi ce récit absolument mensonger, digne des pires soviétiques? C'est-à-dire, le type se fait agresser par une femme qui manifestement voulait le tabasser à tout prix, réussit à lui écraser un œuf sur la tête. Le type n'est pas au courant que c'est un œuf, donc on se fait agresser dans le dos, à moins d'avoir des yeux derrière la tête, on ne sait pas ce dont il est question. Il se défend, eh bien Zemmour est le coupable et celle qui l'agresse est la victime. Donc c'est toujours un même système d'inversion du récit, d'inversion du réel. Et tout cela, à mon avis, s'inscrit dans la continuité idéologique, appelons ça, de la séquence des dernières semaines. Et ça culmine donc avec cette agression qu'on a contre Zemmour, qu'on a transformée en agression de Zemmour ce soir. Tout ça est lié.
Juste pour une petite parenthèse pour Mme Moadem, vous avez beaucoup de syndicats, de sociétés, des journalistes qui ont fait des communiqués pour soutenir cette journaliste. Il s'avère que la semaine dernière, quand nos journalistes de CNews ont été insultés, menacés, exfiltrés d'une manifestation... J'ai malheureusement pas vu un communiqué de la SDG de France Inter.
Et quand Mme Binet décide de dire « je ne veux pas ce journaliste-là autour de moi », où sont Reporters sans frontières, où sont les syndicats de journalistes? Donc, à un moment donné, il y a quand même des limites à se laisser dominer par les faux culs.
Ils sont peut-être place de la Concorde pour
manger des saucisses végétales.
Voilà, exactement. Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous sur ce Paris capitale de la Poste-France?
Il faut savoir qu'Anne Hidalgo, c'est la déconstruction permanente. Anne Hidalgo, c'est une femme qui s'ennuie. Elle s'ennuie, mais elle est ambitieuse. Donc, elle veut laisser une trace dans l'histoire. Pour le moment, le seul héritage qu'elle va laisser aux Parisiens, c'est une dette monstrueuse. Mais si vous voulez comprendre Hidalgo, si vous voulez, c'est le syndic d'un immeuble qui, à peine élu par erreur, débarque chez vous, repeint vos murs, casse vos pièces à la masse, décroche vos photos et les remplace par des dessins inclusifs d'une école primaire, et ensuite, elle vous envoie la facture. Mais si vous voulez voir le côté positif, bien mieux que des cours d'inclusion que nous vend le gouvernement pour régler le problème des attaques au couteau, vous proposez une visite de Paris à tous les élèves de France et ira bien plus vite. Alors je dis pas qu'ils risquent de tiquer un peu sur vivre ensemble avec les surmulots, mais vous leur envoyez un tuto d'Emeric Caron sur Insta, ça réglera le problème. Non, le souci qu'on va avoir, c'est lorsqu'ils vont le demander pourquoi avoir choisi la Cour des Miracles comme capitale de notre beau pays. Alors jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait dire, regardez, les JO comme argument... Anne Hidalgo avait annoncé une grande fête populaire avec 2 millions de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture. Six mois après, on nous dit finalement, c'est pas 2 millions, ça va être 1 million. L'année dernière, le ministre de l'Intérieur nous dit non, c'est pas 1 million, ça va être 600 000. Et là, on apprend que ça va être 326 000. 326 000 personnes, dont un tiers vont devoir vendre les organes de leurs enfants pour acheter des places qui vont être aussi confortables que des boxes de bourrin à Longchamp. Et les autres, les 200 000 restants, vont être invités par l'État et les collectivités. Donc la fête populaire, elle a pris un peu du plomb dans l'aile. Donc il faut trouver une autre explication. Et là, on rentre dans le détail de l'élection de Mme Hidalgo. Mme Hidalgo, 4 Parisiens sur 5 n'ont pas voté pour Anne Hidalgo. Et pourtant, elle a été élue. Alors, il y a évidemment l'explication du virus pangolin. On se rappelle, c'était en plein coronavirus. On nous a tellement fait flipper que la moitié des électeurs ne sont pas déplacés. Faut s'en souvenir. Alors, à leur décharge, on comprend. On dit, vous allez finir intubé avec un tract d'Anne Hidalgo dans les mains, ça fait pas rêver. Une autre grande partie des électeurs sont inscrits sur les listes électorales de leur maison de campagne, parce qu'ils préfèrent empêcher la construction de pavillons au bout de leur parc. Et donc, il reste quelques électeurs par-ci, par-là. Et la méthode d'Anne Hidalgo, c'est la partition. Il y a autant de maires adjoints que de punaises de lit sur un siège de Cinoche à Paris. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attribuer des postes à chacun de ses soi-disant représentants de soi-disant minorités. Et hop, le tour est joué. Et si vous écoutez Madame Hidalgo, elle n'est pas là comme gardienne d'un chef-d'œuvre, gardienne de Paris. Elle est là pour sauver la planète, lutter contre le fascisme, faire des papouilles aux stalinistes, repeindre les passages piétons arc-en-ciel. Ils sont contre les frontières partout, mais pas à Paris, parce qu'il faut quand même empêcher les beaux de Provence et de Montlieu de venir troubler le Nouveau Monde. Et ils refilent un max de pognon au lobby LGBT, immigrationniste et antispéciste. Donc forcément, quand on s'attaque à l'un de ces lobbies, c'est le branle-bas de combat à la mairie, parce qu'on s'attaque aux clients de Madame Hidalgo. Donc on censure les affiches, on colle des procès, on interdit des conférences. Il y a même eu une manifestation aujourd'hui une marche lesbienne, comme ils ont intitulé, afin de, je les cite, visibiliser les luttes menées par les différents collectifs lesbiens, une manifestation contre la répression des mouvements sociaux de gauche, contre le racisme systémique, contre les idées anti-trans et contre la normalisation de la xénophobie croissante. Bon. Alors un petit conseil d'amis, si la xénophobie, c'est s'interroger sur la compatibilité d'une marche de fierté avec la charia importée, alors je vous invite très rapidement à devenir xénophobe, sauf à vouloir essayer le sol élastique depuis la tour Montparnasse sans élastique.
Autre sujet, Mathieu Bock-Côté, on a beaucoup parlé de la mort du jeune Matisse cette semaine, d'ailleurs il y avait sa marche blanche, la marche blanche aujourd'hui à Châteauroux, assassiné par un jeune afghan, et c'est sur la signification sociologique et le traitement médiatique de cette histoire que vous souhaitez revenir dans votre second édito.
Je dirais que les martyrs du vivre ensemble commencent à se multiplier. Hein. Ce sont des noms qui se gravent dans notre esprit. Lola, Thomas, Matisse. Ce sont des noms s'inscrivent dans notre esprit comme tout autant de victimes d'une réalité qu'il ne nous est pas permis de nommer. Je vais dire une phrase terrible, mais il y a quelque chose qui devient presque banal dans de telles agressions. Elles sont horribles, elles sont inacceptables, mais nous nous y habituons. Nous nous y habituons. On le sait, le lien entre immigration et insécurité est documenté. Mais plus il est documenté, et moins il est permis de le mentionner. Ça, je le note avec... Et on traîne devant les tribunaux, on diabolise ceux qui veulent nommer ce lien. Est-ce que d'ailleurs les grands médias font le travail, hein? Par exemple, on peut dire Matisse agressé par un garçon de son âge, on va pas mentionner que c'est un Afghan. On va pas le mentionner parce que si on le mentionne, c'est comme si c'est un blasphème. C'est comme si on décidait de transgresser quelque chose. Mais la réalité finit par percer. Il y a de plus en plus d'informations qui finissent par percer, notamment par le système médiatique alternatif. Et là, les informations sortent par ce qu'on appelle des sites d'information. Comment faire en sorte que ces informations-là ne puissent pas circuler librement? On dit que ce sont des sites de la fachosphère, de la fachosphère. Donc là, si c'est la fachosphère, on n'a pas le droit de les mentionner, même si c'est le réel qui perce à travers là. Et l'autre chose que l'on voit chaque fois, c'est qu'on sent la pression d'un système pour dire aux parents, pour dire aux proches, vous devez immédiatement, si vous voulez être soutenu, reprendre la formule du pas de récupération. Pas de récupération. Autrement dit, ce n'est qu'un fait divers. Il n'y a pas de portée politique, il n'y a pas de portée symbolique. Vous pouvez pleurer, vous pouvez faire une marche blanche, mais dès lors que vous réfléchissez à la signification des événements, vous transgressez l'interdit du régime, du récit de la diversité heureuse.
On a pourtant, Mathieu, l'impression que le discours médiatique a franchi une nouvelle étape ces derniers mois.
Ah ouais, absolument. D'abord Thomas. Rappelez-vous Thomas à Crépol. Au début, on apprend que la bande qui vient frapper veut planter du blanc, poignarder du blanc. On va comprendre, les tribunaux ont une capacité, enfin, les autorités ont une capacité remarquable à ne pas retenir les faits qui pourraient remettre en question le récit de la diversité heureuse. Et après quelques jours, rappelez-vous, on nous expliquait qu'en fait, Thomas avait un peu cherché son malheur. Hein, parce que c'était peut-être, il y avait peut-être à l'origine des commentaires racistes de sa part qui fait qu'on l'avait poignardé pour le punir. Ça n'aurait pas dû arriver, mais ça relativisait le geste. J'ai entendu ça même sur le service public. Enfin, évidemment, sur le service public ou ailleurs. Là, cette fois-là, on nous a dit... Matisse aurait dit du jeune homme qui serait fils de Ben Laden, je crois. Donc, il y aurait eu des commentaires xénophobes à son endroit. Encore une fois, ça vient relativiser le fait qu'il y a un mort. Il y a un mort. Le jeune Matisse est mort. Et l'autre, nous savions, le jeune Afghan, nous connaissions son profil. Et c'est quoi cette manie de se promener toujours avec des couteaux? C'est quand même un peu étonnant. Mais donc, le système médiatique est ainsi construit qu'il veut censurer la possibilité de l'existence même d'une délinquance conquérante, d'une délinquance avec une connotation identitaire, entre guillemets. Donc, il faut empêcher la possibilité même de cette hypothèse. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis qu'il faudrait on devrait avoir le droit d'examiner cette hypothèse. Et ce qu'on voit en ce moment, donc vous parlez d'un cap qui a été franchi, c'est qu'on est passé du « c'est un fait divers » à « ok, d'accord, il est mort, mais l'a-t-il cherché? Ne l'a-t-il pas cherché? Est-ce qu'à l'origine du coup de couteau, il n'y a pas une parole condamnable qui relativise le coup de couteau. C'est quand même fort de café.
Il nous reste un peu moins de 2 minutes avant la publicité, Mathieu Bock-Côté. Dernière question, dans ce contexte, les Français sont-ils encore protégés?
C'est la question qui se pose. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que les Français sont protégés par leurs autorités? Moi, j'ai l'impression, et je le dis avec une grande tristesse, que le régime, pas le régime telle personne, mais le régime diversitaire, comme je l'appelle, considère que la violence issue de la diversité, entre guillemets, est une violence condamnable, mais tolérable. Ce qui n'est pas tolérable, c'est la dénonciation de cette violence dans cette dimension. On le sait, les jeunes filles, les jeunes militantes de Némésis le savent. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu aussi le préfet de l'Indre, après la mort de Matisse, qui nous a dit, après, donc, c'est la mort d'un enfant, c'est la mort d'un adolescent. Son vrai scandale, pour lui, c'est quelques réseaux de l'ultra-droite ont tenu des propos absolument scandaleux et ignobles. Ce monsieur, figure de l'autorité, ce qui l'indigne, ce n'est pas la mise à mort d'un jeune homme, ce n'est pas l'exécution d'un jeune homme. Non, ce qui l'indigne, c'est que certaines personnes aient trop mal réagi après sa mise à mort. Et là, on va nous dire, pas de récupération, pas de récupération, pas de récupération, diversité heureuse, la diversité de richesse, ne questionnez pas. Finalement, pourriez-vous faire profil bas et ne pas protester lorsque vous êtes victime d'une manière ou de l'autre de ces agressions qui se multiplient? Il y a quelque chose là-dedans qui relève de l'inversion du réel.
Rapidement, Arthur de Vatrigan, comment vous décodez ce décalage entre cette réalité qui vient frapper dramatiquement le quotidien des Français et cette réalité alternative présentée par les médias aujourd'hui?
La réalité alternative présentée par les médias, c'est une histoire qu'il raconte en détournant les yeux, et cette histoire qu'il raconte en détournant les yeux, ça permet au jour d'après d'avoir des bourreaux qui croisent encore leurs victimes. Donc si vous voulez, j'ai cité le diable, si vous me permettez, à savoir Renaud Camus. On peut penser ce qu'on veut de l'homme, mais c'est un écrivain, un grand écrivain, ça tout le monde le reconnaît. Et un écrivain, c'est quelqu'un qui sait manier les mots et qui sait manier les phrases. Et qu'est-ce que dit Renaud Camus? Entre vivre ensemble, il faut choisir. Ben, je crois qu'il a raison aujourd'hui.
Frédéric Lemoyle sera notre invité juste après la publicité. Le fascisme hier et aujourd'hui, ce sera le cœur de votre entretien dans un instant après la publicité. A tout de suite sur CNews. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu bien sûr et Arthur de Vatrigan. Frédéric Lemoyle, vous êtes avec nous, ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes historien, auteur entre autres de Histoire du fascisme ou encore Les hommes de Mussolini. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité Frédéric Lemoyle ce soir?
Parce qu'il faut mettre un peu de clarté intellectuelle et historique de temps en temps sur l'usage des mots qui circulent dans l'actualité. Fascisme. Le fascisme serait de retour, on nous répète ça régulièrement, sous ce nom ou sous un autre, mais on nous le répète vraiment avec beaucoup d'acharnement, surtout à l'horizon des élections européennes. Donc pour être capable d'y comprendre quelque chose, les travaux de Frédéric Lemoyle sont parmi les plus intéressants des dernières années pour permettre de comprendre ce fait historique majeur qui était le fascisme, ce fait historique qui a fait une forme de catastrophe en Europe. Mais est-ce que nous en sommes encore contemporains? Donc pour chercher à comprendre cette réalité, nous recevons Frédéric Lemoyle, bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Alors, allons-y avec une définition d'abord et avant tout. Lorsqu'on parle du fascisme, je sais que les définitions sont nombreuses, que les explications sont nombreuses, mais certaines définitions me semblent plus convaincantes que d'autres. Quelle définition proposez-vous du fascisme?
Alors, c'est vrai qu'il est difficile de donner une définition exacte parce qu'il n'y a pas eu de corps de doctrine clair à la différence du marxisme-léninisme. Alors, moi, je dirais que le fascisme, c'est d'abord une idéologie totalitaire parce qu'elle est révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'elle vise à faire une double révolution. Une révolution institutionnelle, c'est-à-dire abolir le système parlementaire, hérité du libéralisme, au profit d'une sorte de démocratie totalitaire, c'est-à-dire qui fait référence à la souveraineté populaire, mais cette souveraineté populaire, elle est incarnée par le parti et par le chef, le Duce en l'occurrence, et puis une révolution anthropologique, c'est-à-dire qu'il vise à créer un homme nouveau, un Italien nouveau, un peuple nouveau, qui serait une sorte de peuple guerrier. Car au cœur du fascisme, il y a l'exaltation de la violence, l'exaltation de la conquête guerrière. Et on a également dans le fascisme, en fait, une union, c'est-à-dire la réunion, je dirais, entre le socialisme et le nationalisme que le marxisme avait dissocié, mais qui était né au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'à mes yeux, le fascisme n'est pas un mouvement anti-lumière, pas du tout. Il plonge ses racines dans une partie de la philosophie des Lumières, notamment dans les théories de Rousseau et dans le contrat social, qui est en fait la meilleure description de ce que seront les régimes totalitaires au XXe siècle, et une idéologie qui plonge également ses racines dans l'expérience jacobine de la Révolution française. Parce qu'il a hérité de la Révolution française cette tentation démiurgique, cette tentation de l'homme nouveau, cette sacralisation de la nation. Les fêtes révolutionnaires, la volonté de, par exemple, changer le calendrier, comme l'a fait le fascisme, la volonté de changer la langue italienne comme, en abolissant le vouvoiement, comme l'avait fait la Révolution française. Donc c'est un nationalisme parce qu'il fait de la nation une idole païenne, et c'est un socialisme parce que c'est un étatisme, parce que c'est l'État qui doit engendrer la nation, qui doit engendrer le nouveau peuple. Mussolini l'avait très bien dit avec cette formule très connue: tout dans l'État, rien en dehors de l'État et rien contre l'État.
Alors, c'est une définition, c'est généralement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une définition généralement acceptée chez les historiens?
Pas vraiment. La thèse que je viens de développer n'est pas majoritaire auprès de mes collègues, puisque la majorité considère le fascisme soit comme un mouvement qui exprime les l'hostilité aux Lumières, l'anti-Lumière, soit comme un mouvement qui incarnerait la droite conservatrice, l'extrême droite réactionnaire, alors que jamais, jamais, les fascistes, et le premier d'entre eux, Mussolini, ne se sont définis comme des conservateurs ou des réactionnaires. Mussolini a dit très clairement, le fascisme n'a pas choisi comme maître à penser Joseph de Maistre. Donc en aucune façon, c'est un mouvement conservateur ou réactionnaire, car toujours ils ont regardé vers l'avenir, bien au contraire. Le fascisme a voulu couper les Italiens de leurs racines, historiques, de leurs racines religieuses, parce qu'il est extrêmement hostile au christianisme. Donc, en aucune façon, on a un mouvement passéiste, un mouvement nostalgique. C'est un mouvement qui regarde vers l'avenir. Il y a dans le fascisme, en fait, il y avait dans le fascisme une sorte de progressisme qui lui vient de cette volonté d'engendrer un homme nouveau.
Alors, le fascisme, au cœur de l'expérience totalitaire du XXe siècle, on a l'habitude de considérer que fascisme, nazisme, ainsi de suite, ont été balayés de la scène de l'histoire en 1945. Première question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que le fascisme a été vaincu en 1945, ensuite il ne survit qu'à l'état d'ectoplasme à la manière résiduelle. Et deuxième élément, qu'est-ce qui amène certains à croire qu'aujourd'hui il serait renaissant?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, le fascisme est mort en 1945, c'est très très clair. Il est mort en fait de deux choses. Il est mort d'abord des propres horreurs qu'il a engendrées, il est mort de ses propres abominations. Il est mort des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qui a complètement vacciné la population européenne contre un hypothétique retour de telles idéologies. Et puis il est mort aussi en 1945, parce que 1945 clôt en quelque sorte la séquence qui avait été ouverte par la crise de civilisation en Europe de la fin du 19e et du début du 20e, et puis surtout de l'expérience de la Première Guerre mondiale. On ne comprend pas le fascisme, l'émergence du fascisme, sa prise du pouvoir, si on le coupe de la Première Guerre mondiale. Les fascistes qui prennent le pouvoir en 1922, ce sont des anciens combattants. Leur violence leur vient des idéologies nationalistes et socialistes dont je parlais et qui s'expriment dès le 19e siècle. Et puis cette violence, elle vient aussi de la guerre, car ce sont des anciens combattants. Le fascisme en 1922, c'est les anciens combattants qui prennent le pouvoir et qui poursuivent en fait ce combat de la guerre dans le combat politique et qui font de l'adversaire un ennemi. Or, ce monde disparaît en 1945 pour ouvrir la séquence de la période de la guerre froide. Et puis aujourd'hui, évidemment, nous sommes à des années-lumière du monde qui est sorti de 1918 et de l'expérience dramatique de la Première Guerre mondiale. Donc dire que le fascisme revient, dire que le fascisme menace l'Europe, c'est soit être inculte, soit être de mauvaise foi, soit les deux. À mon avis, c'est tout à fait clair. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement pratique. Parce que le fascisme, du fait des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, apparaît comme le mal absolu, beaucoup plus élevé que ne l'est le communisme aujourd'hui. Et donc, c'est une instrumentalisation qui est faite par la gauche, en fait, mais dès les années 30, on a déjà cela. En collant l'étiquette infamante de fascisme, on met fin au débat. Le fascisme étant le mal absolu, on ne peut pas discuter avec des gens sur lesquels on met l'étiquette de fascisme. Donc, c'est un moyen de faire taire l'adversaire, c'est un moyen de le décrédibiliser, et c'est un moyen d'empêcher le débat sur des problématiques qui se posent aujourd'hui en Europe, qui ne sont pas celles des années 30, mais qui sont des problématiques importantes, puisqu'on peut considérer aujourd'hui que l'on vit une crise de civilisation et que l'on vit également une crise de la démocratie représentative et du libéralisme.
Arthur de Vatrigan.
Je reste toujours un peu dans le passé. En vous lisant, on découvre finalement qu'il y a au moins deux fascismes. Il y a le fascisme mussolinien et le fascisme hitlérien. Quelle est la différence entre ces deux fascismes et est-ce que ces deux fascismes se sont affrontés pendant la guerre?
Alors, la différence fondamentale entre les deux fascistes, à mon avis, c'est le racisme et surtout l'antisémitisme. C'est-à-dire que même si le fascisme italien, à partir de 1938, a versé dans l'aberration des lois antisémites, l'antisémitisme n'est pas structurel dans le fascisme italien. Et justement, les nazis, dès les années 20, et puis surtout à partir de 1933, n'ont cessé de reprocher aux fascistes italiens l'absence d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il leur disait, mais vous ne comprenez rien parce que la question fondamentale, c'est celle de la hiérarchie des races et de l'antisémitisme. Alors bien sûr, le fascisme a été contaminé par ses idéaux racistes et par ses idéaux antisémites à partir de la guerre d'Éthiopie et surtout du rapprochement avec l'Allemagne, dans un phénomène d'imitation, mais aussi parce qu'il fallait relancer la révolution fasciste. Parce que pour Mussolini, il faut toujours un ennemi. Et comme l'ennemi politique avait été abattu, il a offert un autre ennemi à sa révolution, qui était le juif, et qui, en plus, permettait de relier le fascisme à ses origines socialistes, c'est-à-dire que le juif, évidemment, incarnant le bourgeois qu'il fallait absolument, absolument combattre. Après, ces deux, ils ne se sont pas affrontés, mais pendant la guerre, à partir de l'alliance de 1939, il y a eu un déséquilibre entre les deux. Hitler avait une énorme admiration pour Mussolini, qui n'était pas réciproque. Mussolini a servi, en fait, quand même d'inspiration pour Hitler. Hein. Le coup d'État de 23 s'inspire, la tentative de coup d'État de la Brasserie s'inspire, bien sûr, de la marche sur Rome. Mais en fait, l'Allemagne nazie avait acquis une telle puissance au moment de la Seconde Guerre mondiale que l'Italie, en fait, s'est retrouvée complètement vassalisée. Et Mussolini n'a plus eu la possibilité d'imposer ses décisions à un Hitler qui était vraiment engagé dans une entreprise absolument démoniaque et où l'anti-bolchevisme qui pouvait les unir ne suffisait plus à marquer la différence qu'il y avait entre les deux.
Alors, aujourd'hui, donc je reprends votre diagnostic, il n'y a plus de fascisme présent en Occident, tout le moins ce n'est plus un courant ailleurs que dans les marges. Pourtant, l'antifascisme, lui, est assez prospère. Donc, l'antifascisme médiatiquement entendu, sur le mode de la lutte contre l'extrême droite souvent, mais aussi la mouvance antifa, dont on parle de temps en temps, et qui semble, elle, avoir quelquefois repris les méthodes des fascistes d'hier, c'est-à-dire la même sacralisation de la violence, le culte de la violence, la volonté d'anéantir l'adversaire, le transformer en ennemi. Est-ce qu'il n'y a pas chez ceux qu'on appelle les antifa aujourd'hui, la mouvance, on pourrait dire, de l'extrême-gauche encagoulée, est-ce qu'il n'y a pas, par un phénomène d'imitation, une reprise de certaines des méthodes et même une partie de l'imaginaire, l'érotisation de la violence qui pouvait caractériser le fascisme?
Alors ça, c'est absolument certain, puisque moi, j'ai vu dans les rues de Paris, mercredi, des gens habillés tout en noir et qui pratiquaient la violence politique. Et à ma connaissance, il n'y avait pas de référence à Mussolini et au fascisme. En fait, oui, il y a chez eux la sacralisation de la violence. Ils partagent avec les fascistes en fait la négation de la médiation parlementaire. C'est-à-dire qu'ils partagent l'idée que les conflits politiques ne peuvent pas être résolus dans le cadre parlementaire, dans le cadre d'élections démocratiques au suffrage universel, que ce type de le régime parlementaire ne peut pas représenter la volonté populaire, qui était chère aux citoyens Rousseau. Et donc, ils se rejoignent aussi bien sur le fond, en quelque sorte, que sur la forme. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais il n'y a pas, bien sûr, à l'extrême-gauche, le nationalisme. Alors, et le nationalisme ferait du fascisme un mouvement purement d'extrême-droite. Alors, moi, je nuancerais un petit peu, si vous voulez, parce qu'on on a des exemples très clairs de régimes clairement d'extrême-gauche, sur réclamant clairement du communisme, et qui peuvent être nationalistes. Le maoïsme est une forme de nationalisme. La Corée du Nord, aujourd'hui, qui construit le socialisme dans la joie et la prospérité, clairement, c'est un régime nationaliste. Les Khmers rouges étaient, bien sûr, aussi... Il y avait des références nationalistes. Il fallait préserver la pureté du peuple Khmer.
Je pousserai plus loin. Je ne veux pas lancer une polémique, mais dans la gauche radicale d'aujourd'hui, la sacralisation de la cause palestinienne, est-ce que ce n'est pas une forme de nationalisme compensatoire ou de nationalisme qu'on embrasse pour peu qu'on le prête aux autres?
Alors, c'est possible. La différence qu'il faudra apporter, c'est que ce n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que la défense de la nation auquel ont droit, bien évidemment, les Palestiniens, eh bien, n'est qu'un prétexte, en fait, pour combattre cet État, à leurs yeux, qui est un État colonialiste blanc, qui est Israël. Ce qui nous renvoie aussi à la problématique que l'extrême-gauche peut très très bien être touché par l'antisémitisme. Il faudrait rappeler évidemment que le camarade Staline, lui aussi, à partir de la, après la Seconde Guerre mondiale, a quand même imprimé à son régime un aspect antisémite au nom de la lutte contre le cosmopolitisme, cette exécration du cosmopolitisme que l'on avait également chez Rousseau. Et on retrouve ce rejet du juif comme incarnation du bourgeois et du capitalisme que l'on avait déjà chez Mussolini.
Mais vous faites référence à quelque chose de très important ici, c'est-à-dire, appelons ça les origines, pas exclusives, mais socialistes de l'antisémitisme. Il y a d'autres origines, évidemment. Je pense ici aux travaux de Marc Crapez, par exemple, auxquels vous, et les vôtres, ils font, et que, on pourrait dire, les vôtres croisent aussi cette intuition, c'est que le socialisme et l'antisémitisme, c'est une histoire qui n'est pas récente. C'est une histoire qui a, en fait, c'est une longue histoire. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'elle pourrait ressurgir dans le présent?
Mais non seulement elle pourrait ressurgir dans le présent, mais elle ressurgit, vu le contexte actuel. Derrière la lutte contre le sionisme, quand on gratte un peu, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un antisémitisme qui s'exprime et qui même aujourd'hui a tendance à se racialiser de nouveau du fait que, comme je le disais, les Israéliens incarnent le dernier peuple blanc qui serait colonisateur et qui continuerait à se défendre contre les Palestiniens.
Arthur de Matrigan.
Vous avez dit que le fascisme était révolutionnaire parce qu'il y avait cette ambition de créer un homme nouveau. Est-ce qu'on peut faire un lien avec cette idée de réengendrement qu'on voit un peu fleurir depuis quelques années dans les universités américaines et qui nous arrive en France ?
Alors en fait, tout cela vient de la modernité. C'est-à-dire que, comme je le disais au début de notre entretien, le fascisme ne peut pas être considéré comme un mouvement anti-lumière. Parce qu'il est issu de la modernité. Il est issu de 1789 et de ce rêve depuis 1789 de recréer un homme nouveau, de toucher à la nature humaine. Alors, Mussolini, lui, voulait effectivement s'intéresser à la manière dont les Italiens mangeaient, dans la manière dont ils parlaient, la manière dont ils marchaient, la manière dont ils s'habillaient. Aujourd'hui, c'est différent, mais la démarche est toujours le même. On veut inventer un être humain qui n'existe pas, inventer un être humain fictif, même un peuple fictif, comme l'ont fait tous les totalitarismes, jusqu'au moment où le totalitarisme bute sur la réalité. Et cette réalité, c'est laquelle ? C'est la réalité de l'être humain. Donc tous ces mouvements qui veulent toucher la nature humaine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont condamnés à échouer. Mais avant leur échec, ils peuvent faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, voire même engendrer la violence et même engendrer la mise à mort des personnes qui ont le malheur de se dresser contre leur projet. Donc face à ces mouvements, je dirais, il faut toujours ne pas avoir peur, comme disait Jean-Paul II, hein, n'ayez pas peur. Il faut garder les pieds sur terre, toujours rappeler ce qu'est la nature humaine. Pourquoi pas relire toutes les encycliques pontificales du XXe siècle, puisque l'Église a été confrontée à ce phénomène totalitaire et tous les papes, de Pie XI à Jean-Paul II, ont beaucoup écrit sur cette tentation totalitaire que l'on a au cœur de la modernité. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à rire. Le rire est un antidote contre la pulsion, la tentation totalitaire. En Italie, les Italiens utilisaient beaucoup le rire. Ils se moquaient des hiérarques qui étaient souvent grotesques du régime fasciste, avec ce qu'ils appelaient les barzellette, hein, les blagues. Parce que, en fait, ces gens qui défendent les idées totalitaires, les projets totalitaires, n'aiment pas rire. On n'imagine pas le citoyen Robespierre hilar, pas du tout, parce que ce qu'ils font est très sérieux, parce qu'ils engendrent un être nouveau. Ils se prennent pour des dieux, ils cèdent à la tentation biblique hein, de se prendre pour des dieux et de recréer un homme. Donc, voilà, il faut les prendre au sérieux, parce que c'est très, très sérieux, mais ne pas hésiter à rire d'eux.
Alors, vous nous proposez peut-être une nouvelle typologie des familles politiques. C'est-à-dire, on a l'habitude du clivage gauche-droite, gauche-droite. Est-ce qu'à la rigueur, on pourrait dire qu'on doit relire l'histoire des doctrines politiques au-delà du clivage gauche-droite pour plutôt y voir ceux de la tentation totalitaire, la prétention de l'homme nouveau, les idéologies qui prétendent, par le politique, accoucher d'un homme nouveau et les autres conscientes de l'imperfection humaine, de l'imperfection logée dans le cœur de l'homme, comme disait Solzhenitsyn?
Moi, je ferai la distinction, en effet, à mon sens fondamentale, entre ceux qui croient en la nature humaine et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui croient en la nature humaine, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a une nature humaine qui est inaliénable. que l'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme, comme disait Hannah Arendt. Et il y a ceux qui ne croient pas à cette nature humaine, qui viennent des Lumières. Ça, c'est l'héritage des Lumières, qui rabaisse l'homme à un animal ou à de la matière que l'on peut pétrir à sa guise. Et Mussolini et le fascisme sont clairement... C'est pour ça que ce n'est pas des mouvements anti-lumière. Ils sont clairement dans cette seconde catégorie. Mussolini aimait lui-même se présenter comme un artiste qui ne travaillait pas le bois ou le marbre, mais qui travaillait l'âme humaine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans vos travaux, de ce point de vue, une transgression, je ne dirais pas inavouée, mais transgression majeure? Les Lumières, normalement, en prenant ça, c'est censé, immédiatement, on est censé applaudir, c'est merveilleux, c'est formidable. Les Lumières portent une émancipation de l'être humain. Et vous nous dites, les Lumières ont à tout le moins une part sombre, ne sont peut-être pas que malheureuse, mais aux zones par sombre, et vous mettez le projecteur sur cette part sombre des Lumières.
Oui, parce que les Lumières veulent améliorer l'homme pour le rendre heureux, soi-disant heureux, et pour cela, elles utiliseront un moment, enfin leurs adeptes, hein, utiliseront forcément un moment la contrainte. C'est cette phrase merveilleuse de Jean-Jacques Rousseau disant, en parlant du peuple, on le forcera à être libre. C'est-à-dire que forcément à un moment, vous utilisez la contrainte. Et dans toutes les idéologies actuelles qui visent à refaire l'humanité, à refaire un nouveau peuple, à refaire des individus, forcément, à un moment, il y a des résistances et donc il y a contrainte. Il y a contrainte sur les esprits qui, à l'époque, s'exprimaient par l'embrigadement, par la propagande la plus grossière et puis par le parti, par toutes les structures du parti fasciste qui contrôlait l'ensemble de la société italienne et surtout les enfants, bien évidemment. Contrainte sur les esprits, contrainte également sur les corps, parce qu'il faut fondre l'individu dans la masse. C'était le cas du fascisme, c'est le cas également aujourd'hui. On veut abolir les différences entre les personnes, les différences physiques, les différences sociales, pour fondre l'individu dans la masse, dans la volonté générale chère à Jean-Jacques Rousseau.
Alors, à bien vous entendre, j'ai l'impression que si je cherche aujourd'hui des traces du fascisme dans notre société, ou la poursuite de l'histoire du fascisme, on la trouve moins là où on a tendance à la chercher que dans une partie du progressisme contemporain.
Alors moi, je n'utiliserai pas le mot de fasciste, parce que je le maintiens, le fascisme est mort.
Un phénomène historique, bon, d'accord.
Voilà. Mais la tentation totalitaire, ça, elle est toujours présente. On l'a effectivement dans la Genèse, mais on l'a encore aujourd'hui. On peut l'avoir dans l'écologie, on peut l'avoir dans dans le projet multiculturel. Vous avez beaucoup travaillé, bien sûr, là-dessus, où on retrouve... cette volonté voilà, de créer quelque chose de nouveau, ex nihilo, mais forcément par la contrainte, avec cet aspect très important de l'idéologie. Il n'y a pas de système totalitaire sans un projet idéologique. Et lorsque ce projet se heurte à la réalité, eh bien, forcément, il se radicalise. Il se radicalise sur le fond et la forme. Il se radicalise sur le fond parce que ce n'est pas la réalité qui a tort. C'est pas l'idéologie qui a tort. Il faut contraindre la réalité. Et puis, il se radicalise sur la forme parce que son niveau de répression ne cesse d'augmenter. On le voit très bien dans l'expérience fasciste italienne ou dans l'expérience nazie, où on a un crescendo, en fait, des régimes, où les répressions n'ont cessé de s'amplifier, aussi bien sur la quantité de personnes qui étaient visées que sur les tourments qu'on leur infligeait.
Nous avons le temps d'une dernière question. Arthur de Matrigan.
Quand on parle de fascisme, on oublie souvent une dimension, sur la dimension culturelle. Quel a été le niveau de la culture comme outil et quel est l'héritage culturel aujourd'hui, même de cette révolution culturelle qu'était le fascisme?
Alors, le fascisme se distançait du nazisme sur le fait qu'il ne rejetait pas la modernité dans l'art, ne considérait pas l'art moderne comme de l'art dégénéré, puisque l'une des sources du fascisme, c'était le futurisme. Et le futurisme, par son exaltation du progrès, de la machine, de la vitesse, de la violence, de la guerre. Donc il y a eu à l'époque fasciste un vrai bouillonnement intellectuel. Le fascisme a voulu créer un art proprement fasciste, qui était à la fois traditionnel et moderne. Et puis il y avait à l'intérieur de la sphère fasciste quand même une sphère de débat, un espace ouvert où les intellectuels fascistes, en restant dans le cadre fasciste, mais pouvait quand même débattre. Parce que, comme je le disais au tout début, il n'y a pas un fascisme très très clair, il n'y a pas une doctrine très claire. Donc on a quand même eu un certain bouillonnement intellectuel, notamment par exemple autour de l'histoire, alors qu'il était bien sûr instrumentalisé. Mais Mussolini a fait beaucoup pour le dégagement des ruines romaines à Rome, dans un but bien sûr purement de propagande. Mais il ne faut pas s'imaginer le fascisme comme anticulturel. Il ne faut pas s'imaginer les hommes de Mussolini, effectivement, sur lesquels j'ai travaillé, comme un ramassis de brutes épaisses. Pas du tout. Ce sont des gens très cultivés qui avaient fait des études, qui étaient avocats, qui étaient beaucoup journalistes. Et Mussolini était un homme de l'écrit, qui a toujours aimé écrire dans les journaux, même quand il était au pouvoir. Donc n'en faisons pas des brutes épaisses, tout simplement parce que la culture n'immunise pas contre le fanatisme. Ça, c'est une idée aussi qui vient des Lumières, selon lesquelles, voilà, quand les gens sont éduqués, qu'on les a envoyés à l'école et qu'ils sont cultivés, ça va devenir des gens bien. Mais pas du tout. Lénine, Pol Pot et Mussolini étaient des gens très cultivés.
Un grand merci, Frédéric.
Merci à vous.
Moi, l'historien, auteur de Histoire du fascisme, ou encore Les hommes de Mussolini. Mathieu, Arthur, merci à tous les deux. Rendez-vous la semaine prochaine. Et dans un instant, c'est l'heure des Pro 2. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.